Père Nicolas Sautreau, bonsoir, ravi de vous retrouver sur l'antenne de Radio Maria.
Bonsoir à tous. Parmi les questions les plus pointues que j'ai reçues cette semaine, il y a eu le fait de me demander le titre du livre. Alors je vais redonner le titre du livre que nous commentons. Ça s'appelle « La Trinité et le mystère de l'existence ». Ce livre a été réédité en 1992. Alors je ne sais pas si je n'ai pas su me débrouiller sur Internet, mais je l'ai trouvé à 43$. Ça me semble exorbitant comme prix. Et avec le livre, il y avait un témoignage que je vous livre, datant de 2011. Donc un jeune qui avait découvert ce livre et qui disait « Cette lecture fut la révélation en 120 pages du fondement de mon être, image de la Trinité. Je suis image de la Trinité. » Et cet ancien étudiant dit à quel point cette découverte qu'il ressemblait à la Trinité, ou que la Trinité lui ressemblait, si on veut aller jusqu'au bout du paradoxe, a été un bouleversement pendant toute son existence jusqu'à aujourd'hui. Donc, la Trinité est le mystère de l'existence. Aujourd'hui, dans les pages peut-être les plus ardues de toute sa retraite spirituelle, Jean Danielou continue à répondre aux questions « Qui suis-je ? Que suis-je ? Qu'est-ce qu'exister ?» et, plus pratique, « Comment exister davantage ?» Déjà, lorsqu'il publie son livre, nous sommes en 1968, il y avait des théories du développement personnel. Et Danielou répond à ces théories, à ces doctrines du développement personnel en expliquant, à partir du mystère de la Sainte Trinité, ce qu'est le développement personnel au sens catholique du terme. Comment on arrive à l'accomplissement de son être, à l'accomplissement de sa personne individuelle, par quel chemin et sur quelle base, grâce à quel fondement. Et c'est ce que nous écoutions la semaine dernière, avec cette très très grande affirmation que le fond de l'être, c'est l'amour entre des personnes. La racine de l'être, c'est l'amour, mais l'amour entre des personnes vivantes. C'est l'étoffe même de l'absolu, nous dit Jean Danielou. L'étoffe même de l'absolu. Et partout où il y a de la communion qui apparaît, il y a une révélation de cette racine la plus profonde de l'être qui provient de Dieu lui-même en tant qu'il est Trinité. Toute constitution de communion, tout avènement d'une communion entre des personnes nous permet de cerner cette vérité, là aussi en même temps déconcertante et enrichissante, que plus les personnes sont une, plus elles sont en communion, plus elles deviennent des personnes, de vraies personnes. Voilà. Et en même temps, plus je suis une vraie personne, plus j'ai d'identité, plus j'ai de personnalité, de caractère, de tempérament, plus je suis capable de communion. Alors, cela est très bien illustré par l'individu Jean Danielou, qui avait un très fort tempérament, beaucoup de personnalité, beaucoup de vigueur. Donc, on pourrait penser qu'il prêche pour sa propre chapelle, mais non, il essaye de prouver cette affirmation en disant que c'est ainsi que cela se passe en Dieu. Les trois personnes divines sont vraiment des personnalités extrêmement distinctes les unes des autres. Elles ont une façon d'être Dieu qui n'est absolument pas la même entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Il y a trois façons d'être Dieu. Il y a on pourrait dire trois façons de se comporter divinement. Il y a trois façons d'avoir des mœurs divines, d'avoir une attitude divine, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, comme nous l'avons un petit peu détaillé grâce à Jean Danielou la semaine dernière. Plus je suis singulier, plus je suis exceptionnel, plus je suis extraordinaire, si on veut, et plus je suis capable de communion. Il ne s'agit en aucun cas de renier ma personnalité pour pouvoir entrer en communion avec d'autres personnes. Ce que Jean Danielou va expliquer ensuite est très particulier parce que cela ressemble à un commentaire du numéro 24 de la Constitution pastorale Gaudium et Spes de Vatican II. Donc un texte qui a été voté tout à la fin de Vatican II, en 1965, en décembre 1965, voté, travaillé en commission, en sous-commission, et dans ces commissions et ces sous-commissions, il y avait des évêques et des théologiens qui travaillaient ensemble. Il y avait, par exemple, Henri de Lubac, Jean Danielou, mais aussi Carole Wojtyla, qui allait devenir Jean-Paul II. Ils ont travaillé ensemble et ils nous ont donné, par exemple, le numéro 24, au paragraphe 3, qui va être commenté par Jean-Paul II de très très nombreuses fois pendant tout son pontificat. En particulier cette phrase, dont vous allez voir à quel point ce que dit Jean Danielou est proche. Donc Vatican II affirme, l'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Dieu a voulu que l'homme ne puisse pleinement se trouver par le don désintéressé lui-même. Et si nous cherchons la référence que donne le Concile Vatican II pour éclairer et fonder cette affirmation, nous trouvons l'Évangile selon saint Luc, le chapitre 17 et le verset 33, cette parole un peu difficile, dans laquelle le Seigneur Jésus nous dit, qui perdra sa vie la sauvera. Qui perd sa vie la sauve. C'est peut-être la meilleure traduction. Vous trouverez certainement beaucoup d'autres traductions possibles de ce verset 33 du chapitre 17 de saint Luc, mais nous pouvons retenir celle-ci. Qui perdra sa vie la sauvera. Ce que Jean Danielou explique avec beaucoup de calme, beaucoup de douceur, beaucoup de patience à ses étudiants dans cette retraite spirituelle ressemble à un commentaire de cette phrase de Vatican II. Un commentaire, ou bien peut-être comme une source, puisque cette retraite spirituelle, il l'avait donnée déjà un certain nombre de fois avant Vatican II. Alors, est-ce que nous trouvons là une conviction tellement forte qu'elle s'est retrouvée dans la commission et la sous-commission de travail qui a rédigé en latin le texte de Vatican II, ou bien est-ce que c'est simplement un commentaire a posteriori de Jean Danielou? Un jour, peut-être, les spécialistes pourront nous le dire. Mais il est très beau de voir comment Jean-Paul II, lorsqu'il n'était que Monseigneur Wojtyla et Jean Danielou, ont pu tous les deux tellement méditer sur cette façon de dire la foi. L'homme ne peut pleinement se trouver que par le don désintéressé de lui-même. Retournons au texte de Jean Danielou, qui écrit précisément: la plénitude de l'existence personnelle coïncide avec la plénitude du don à l'autre. Voilà. Comment arriver à la plénitude de mon existence? C'est C'est une quête tout à fait légitime, la quête de la plénitude. Comment m'accomplir? Comment arriver au sommet de mon développement en tant que personne? Et voici la réponse de la foi. Grâce à la plénitude du don de moi-même à l'autre. Et pourquoi les choses sont ainsi? Parce que autant que nous pouvons le dire avec nos mots humains, en Dieu, dans la Sainte Trinité, la plénitude de chaque personne divine coïncide avec la plénitude du don qu'elle fait d'elle-même à une autre et aux autres personnes divines. Tout vient de la Trinité. Et le don de soi dans la Trinité devient, comme le dit si souvent Jean Danielou, l'étoffe même de l'absolu. Et l'étoffe, finalement, que nous sommes, de ce que nous sommes. Voilà pourquoi Jean Danielou dit « Ce serait faux, totalement faux, d'opposer le don de soi et la réalisation de soi. » Comme si se donner nous détruisait, se donner nous mutilait, nous empêchait de grandir, de nous épanouir. Se donner à Dieu, se donner à son époux, à son épouse, se donner à ses enfants, pourquoi pas se donner à une grande cause? Comme si tout cela nous rendait plus petits, alors qu'en vérité, seul ce don de soi, soit dans une seule direction, soit dans beaucoup de directions, lorsque nous en avons la grâce, seul ce don de soi va nous faire exister pleinement. On ne se réalise qu'en se donnant. C'est vraiment le texte de Gaudium et Spes dans Vatican II. Là où est le commentaire de Jean Danielou, c'est lorsqu'il précise « Pour se donner, il faut exister. » Parce que quelqu'un qui n'existe pas ne peut pas se donner. Alors, exister, pas seulement dans le sens de ne pas être du néant, mais exister pleinement. C'est avoir envie d'avoir une existence particulière, singulière, très très personnelle. Quelqu'un qui n'existe pas ne peut pas se donner. Celui qui n'a pas d'existence personnelle n'a rien à donner. Voilà pourquoi le fait d'approfondir notre personnalité n'est pas de l'égoïsme. Ce n'est pas être égocentrique que de vouloir se développer soi-même, que de vouloir être une personne particulière. C'est devenir capable ensuite de donner quelque chose à l'ensemble de l'humanité, de donner quelque chose à ceux que nous rencontrons. Oui, le don de soi va même provoquer l'autre à l'existence. C'est comme ça que les choses se passent aussi dans la vie spirituelle. Ce qui va provoquer l'autre à démarrer une vie contemplative, une vie de prière très intense, très profonde, ou à démarrer en même temps une vie de charité, une vie d'apostolat, c'est l'autre qui, par sa richesse, me provoque à commencer quelque chose. Et une richesse que l'autre ne garde pas pour lui-même, mais qu'il a le désir de me communiquer jusqu'à une forme de don de soi, comme dans la paternité spirituelle, comme dans la maternité spirituelle. Cela me provoque à l'existence. Il y a donc un enrichissement personnel, une forme d'accumulation de richesses spirituelles, morales, intellectuelles, qui ne va pas être de l'égoïsme, qui ne va pas être de l'amour-propre, dans la mesure où il est destiné au don de soi à l'autre pour le bien de l'autre. Voilà pourquoi la contemplation, comme nous l'avait dit en son temps si souvent Don Chotard dans l'âme de tout apostolat, voilà pourquoi la contemplation est absolument nécessaire à l'apostolat. Cela existe déjà en Dieu. Les personnes divines, étant infinies, enrichissent infiniment les autres personnes de la Sainte Trinité. Et le don qu'elles font d'elles-mêmes contribue à la vie même de Dieu. Lorsque nous disons Dieu tellement vivant, lorsque nous parlons de circulation entre les personnes divines, de péricorèse, eh bien, nous pouvons parler aussi d'enrichissement mutuel entre les personnes divines. Et lorsque l'infini enrichit l'infini, lorsque la perfection enrichit la perfection, l'absolu enrichit l'absolu, vous imaginez le degré de vie que cela peut représenter. Ou plutôt non, nous ne pouvons pas imaginer l'intensité, le degré, la puissance de vie que cela produit en permanence dans cette fameuse circulation d'amour entre les personnes. Jean Danielou, qui s'adresse à des étudiants, de jeunes personnes qui ont par définition une ardeur particulière, une volonté de réussir, une volonté de s'épanouir, de se développer, leur dit « Il y a un devoir de réaliser ce qu'il y a de plus authentique dans notre existence personnelle. Voilà. Vous devez être riche de vie et de vraie vie. C'est un devoir. C'est un des sens possibles de la parabole des talents, un des sens possibles, parce qu'il y en a beaucoup d'autres, que ce devoir. Vous devez le faire même contre les menaces et les facilités d'un faux altruisme. Le faux altruisme, c'est d'imaginer qu'on doit se dépenser au service des autres sans avoir aucune réserve en soi-même. Qu'il faut tout le temps s'intéresser à l'autre, aux autres, même si on doit s'étioler, s'appauvrir, se dessécher et se dégénérer à cause de cela. Il dit c'est un faux altruisme. D'abord parce que vous ne pourrez jamais apporter Dieu à autrui, dans la mesure où vous ne serez pas rempli de la présence de Dieu, et en plus, dans la mesure où vous ne rendez pas gloire à Dieu en laissant Dieu développer votre vie spirituelle, votre vie surnaturelle. Ce faux altruisme, vous voyez la force des mots qu'il a voulu forger, ce faux altruisme est une façon de s'évader de l'effort plus exigeant encore de l'accomplissement de soi-même. C'est une évasion. Le combat spirituel, le combat de la prière, le combat de l'adoration, est quelque chose de tellement pénible à notre nature blessée par le péché originel que toute occasion pour s'évader loin de ce combat est bonne à saisir. Et le prétexte de devoir absolument s'occuper d'autrui est un prétexte redoutable parce que la charité fraternelle est tellement immense dans la spiritualité catholique, à une telle place qu'on ne peut pas lutter contre le précepte de la charité fraternelle. On doit l'éclairer. Et la charité fraternelle, au plus haut point, c'est de donner Dieu au prochain. De communiquer Dieu lui-même au prochain. Ça fait partie des œuvres de miséricorde spirituelle. De pouvoir aider le prochain à devenir un ami de Dieu et peut-être un saint. Si nous nous évadons de l'effort d'accomplissement de nous-mêmes dans la communion avec Dieu, nous ne pouvons plus apporter que des réalités secondes, voire très secondes, voire des illusions à notre prochain. céder aux sollicitations du dehors, être incapable de leur résister quand c'est le temps de la prière, de l'oraison et du recueillement, c'est aller vers le plus facile. Jean Danielou parle d'expérience. Ses carnets spirituels nous révèlent qu'il a à la fois fait l'expérience d'échec dans ce domaine-là, et que voilà pourquoi il était si proche de Dieu, il a aussi fait l'expérience de réelle victoire, de réelle fidélité dans la vie de prière, dans la vie de communion permanente avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Reconnaissons que l'expression faux altruisme est vraiment rude, elle est vraiment dérangeante, mais peut-être devons-nous accepter que le prédicateur jésuite ait envie de nous déranger un peu, de nous dire que nous avons trouvé probablement des prétextes pour moins prier ou peu prier. Peut-être vous souvenez-vous que lorsque le mot progrès arrive dans notre texte, il arrive sur le fond des premières amours intellectuelles de Jean Danielou, de sa thèse de doctorat, à la fois présentée comme thèse de doctorat en théologie à l'intérieur de la faculté jésuite et ensuite en philosophie à la Sorbonne, sur Saint Grégoire de Nyssa, le grand mystique, le grand spirituel du IVe siècle dans l'Orient, si vous voulez, dans la Turquie actuelle. Saint Grégoire de Nyssa, toute sa pensée est éclairée par l'idée de progrès, un développement, un progrès permanent. Et c'est ce mot de progrès récupéré à la mystique catholique, à la mystique la plus forte, celle qui s'appuie sur une doctrine aussi grande que la doctrine des pères de l'Église contemporains de Saint Grégoire de Nyssa. C'est cette idée de progrès qui va permettre d'aller encore plus loin pour dire ce qu'est le développement personnel à la lumière de la Trinité, à la lumière de Dieu Trinité. Il existe un progrès authentique possible dans la réalisation de ma vocation personnelle. Et cette réalisation authentique, elle est celle d'un don aux autres. Je me donne aux autres et ainsi je deviens davantage moi-même et cherchant à devenir davantage moi-même, je peux mieux me donner aux autres et donner quelque chose de supérieur à moi aux autres. Eh bien, cette réciprocité, cette forme de circularité où se donner et grandir s'appellent l'un l'autre, Jean Danielou va l'appeler le style ascendant d'une existence. L'existence est une montée. On peut discerner l'influence du philosophe Henri Bergson, qui n'est pas loin, mais aussi tout simplement de toute la spiritualité, la grande spiritualité catholique. La montée du Mont Carmel. Le titre exact du livre de Saint Jean de la Croix, c'est La montée du Mont Carmel. Toute la vie spirituelle est une montée, est une ascension, à l'image d'abord de l'ascension du Seigneur Jésus et ensuite de toutes les ascensions que peut nous décrire l'Ancien Testament. Nous devons chercher un style ascendant dans notre vie. Parce qu'une existence ascendante est une existence qui va grandir en même temps dans sa fécondité à l'égard des autres, tout simplement faire du bien, et en même temps dans l'accomplissement de moi-même. Et nous avons bien compris que on ne peut pas isoler l'un de l'autre. Je me donne et je grandis. Et grandissant, je vais grandir dans le don et dans le don de moi-même. Reconnaissons que nous sommes un petit peu dans la stratosphère, que nous sommes dans les très grandes hauteurs, non seulement mystiques, mais même philosophiques, et qu'il est bon de revenir à l'expérience quotidienne, l'expérience, lorsqu'elle existe, d'un amour personnel authentique entre deux personnes humaines, entre deux personnes vivantes, humaines, terrestres. Eh bien, à travers cette expérience, lorsqu'elle est une réussite, il y a quelque chose qui provient du mouvement éternel qui est le fond même de la réalité. En même temps, cela révèle le fond de toute la réalité, un amour réussi, un amour développé entre deux personnes, un amour oblatif, de don de soi entre deux personnes, en même temps cela révèle et en même temps cela provient de Dieu. Et nous avons raison de nous émerveiller lorsque nous sommes les témoins d'une amitié ou d'un amour qui semble. Alors évidemment, le confesseur, celui qui a reçu sans aucun mérite de sa part, par le don du sacerdoce, la mission d'écouter les péchés, de les évaluer et puis d'absoudre, le confesseur est plus prudent lorsque on lui parle de grandes réussites, parce qu'il sait qu'il y a des réussites apparentes qui ne sont pas d'aussi grandes réussites que ce qu'on pourrait imaginer. Mais néanmoins, lorsque nous sommes les témoins avisés, les témoins pondérés et éclairés d'un amour ou d'une amitié, nous avons raison de rendre grâce et de nous dire qu'il y a là quelque chose qui révèle le mystère même de Dieu. Oui, ces expériences-là nous font comprendre une parole aussi difficile que celle du Seigneur Jésus. Lorsque on perd sa vie, lorsqu'on donne sa vie, on est sauvé. Qui perd sa vie la trouve, qui perd sa vie la sauve. Qui accepte le don de soi à l'autre, à son prochain, qu'il va rencontrer régulièrement, celui-là devient de plus en plus un sauvé, devient de plus en plus un saint. Mais néanmoins, c'est par la prière que nous retrouvons les voies par lesquelles on trouve Dieu. Voilà, c'est pas simple, il faut chercher les voies qui permettent de chercher et de trouver Dieu. Donc la difficulté est double. C'est par la prière. Et quand nous nous enfonçons dans les profondeurs de Dieu, dans la contemplation, eh bien, ce mystère éternel d'amour entre personnes se découvre à nos yeux forcément éblouis et nous fait découvrir d'une façon renouvelée, d'une façon tellement plus vivante, tellement plus réelle, tellement plus concrète, le fond de toute chose. Alors, théoriquement, nous savions que le fond de toute chose, que la substance, la racine, le socle de toute chose, c'est Dieu. Mais voici que nous recevons cette lumière, que ce fond qui est Dieu, c'est la Trinité, c'est l'amour trinitaire. Que Dieu est éternellement amour. Et que la manifestation de la vie d'amour de Dieu va être emportée, va être saisie dans la vie d'amour du quotidien. Et que nous n'allons cesser d'être renouvelés, d'être ressourcés, d'être réarmés dans notre désir d'aimer parce que nous avons levé les yeux, l'âme et le cœur vers Dieu Trinité. Que nous ne pouvons pas, encore une fois, nous dessécher, nous ne pouvons pas nous décourager, nous ne pouvons pas oublier le devoir d'aimer, le devoir du don de soi, tant que nous regardons le mystère de la Sainte Trinité. Voilà pourquoi la contemplation qui nous fait nous enfoncer dans les profondeurs de Dieu est source d'amour. Elle est source de force, de vigueur, de lumière, mais elle aussi source d'amour. Nous allons tout le temps nous appuyer sur la parole de Dieu, sur ce rocher solide qui vient de Dieu lui-même, et nous allons essayer de contempler toute notre vie quelque chose de ce mystère incompréhensible de la Trinité. Dans une humilité profonde, dans la mesure où l'Esprit Saint le veut, où il nous donne l'intelligence, nous allons contempler ce mystère qui nous fait revivre de la Sainte Trinité. Alors ici, la parole de Dieu, dont parle Jean Danielou, c'est avant tout le Nouveau Testament qui nous révèle la Trinité, les évangiles et Saint Paul. Et nous allons nous appuyer en permanence sur les évangiles et sur Saint Paul pour scruter tout ce qui nous est dit du mystère de la vie de la Trinité, du mystère de l'amour entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et de cette lecture amoureuse des évangiles et de Saint Paul, nous allons retirer une ardeur à vouloir nous mettre à aimer comme Dieu aime. Lorsque nous disons « comme Dieu aime », peut-être que petit à petit, nous allons vraiment découvrir que cela signifie « comme la Trinité aime ». Comme la Trinité aime de toute éternité en elle-même, et comme la Trinité aime à l'extérieur d'elle-même. C'est-à-dire ce fameux don de soi, le don réciproque, désintéressé de soi-même, comme le répétait inlassablement Saint Jean-Paul II. L'amour, c'est le don réciproque, désintéressé de soi-même. Voilà un grand chapitre de notre retraite spirituelle qui s'achève, et le chapitre suivant s'intitule « La participation à la vie trinitaire ». Il n'avait pas encore été vraiment autant question que cela de notre propre participation à la vie des trois. Nous avions bien compris que la révélation de la Trinité, c'est la révélation suprême de tout l'être, que c'est la réponse à cette question normale et essentielle, qu'est-ce qu'exister pour moi, comment puis-je exister davantage. Mais maintenant, il s'agit de participer, non pas d'être un spectateur de la Trinité, mais d'être un participant actif de la Trinité, de la vie trinitaire. Et l'affirmation très Saint Ignace de Loyola, mais aussi simplement très doctrine du cardinal Danielou, pour commencer, c'est de nous dire que la vie de la Trinité n'a aucun besoin d'être participée. Voilà. Dieu n'a pas besoin du tout de nous faire participer à sa propre vie. Et c'est une vérité que, inlassablement, nous devons reprendre pour être en vérité face à Dieu. Dieu n'a pas besoin de nous pour exister, mais Dieu n'a pas besoin de nous faire participer à sa vie. Il n'y a aucune nécessité, aucun besoin. Et Jean Danielou, sentant comment nous réagissons comme son public qu'il avait juste devant lui, son auditoire, réaffirme, dit, c'est toujours la première chose qu'il faut dire. Il faut commencer par dire cela. Dieu n'a pas besoin de sa création. La vie du Père, du Fils et du Saint-Esprit se suffit parfaitement à elle-même. Et seule la révélation de la Sainte Trinité donne vraiment un sens à une telle affirmation. Si Dieu est solitaire, s'il y a simplement une essence divine, une substance divine qui est en même temps intelligence, en même temps volonté, en même temps liberté, en même temps amour, toutes les qualités de Dieu. Mais de façon solitaire, on pourrait imaginer que une telle personne divine ait envie, au moins envie, sinon besoin, envie d'avoir un vis-à-vis. Mais si en Dieu même, il y a un vis-à-vis, si, comme nous le dit le Seigneur Jésus, le Père aime le Fils aime le Père, et que l'amour du Père et du Fils est une troisième personne, est une relation subsistante qui est la troisième personne de la Sainte Trinité, alors nous comprenons vraiment comment Dieu se suffit à lui-même, comment Dieu se suffit parfaitement à lui-même. Dieu est déjà une famille heureuse, une famille en communion, une famille dans laquelle tout est partagé, tout est vrai, tout est sincère, tout est généreux, tout est beau. Alors, cette famille a le droit, à cause de la dimension infinie de chacune des personnes, cette famille a le droit de se satisfaire de sa propre vie. Ce n'est pas un égoïsme à trois, c'est simplement un mystère de plénitude. Ils sont trois, mais ils sont Dieu tous les trois. Donc, c'est la plénitude, encore plus plénitude que tout ce que les philosophes avaient pu imaginer. C'est quelque chose de très essentiel pour notre vie de prière, pour notre spiritualité, que Dieu soit une plénitude totale d'être. Et donc que Dieu épuise totalement en lui la totalité de ce qui est. C'est la méditation des plus grands métaphysiciens, d'arriver à dire quelque chose de cette plénitude totale qui épuise toute totalité et toute plénitude. Et si Dieu n'est pas ainsi, il n'est pas Dieu. C'est cela, être Dieu. C'est être plénitude. Être plénitude éternelle et infinie. Parce que s'il n'y avait pas cette plénitude totale qui épuise toute totalité, il y aurait de l'imperfection en Dieu. On ne pourrait pas dire que Dieu est parfait. Or, être Dieu, c'est être parfait. C'est aussi ce que le Seigneur Jésus nous dit et nous a redit beaucoup au début de ce carême. Soyez parfaits comme votre Père céleste est parfait. Dieu est parfait. C'est un beau thème de méditation de demander à Dieu lui-même ce qu'est la perfection. Qu'est-ce donc qu'être parfait? Et Dieu peut nous répondre dans l'intime de notre cœur ce qu'est en lui la perfection, qui ne ressemble évidemment pas à une perfection terrestre. Une des choses que nous devons chercher paisiblement à comprendre au sujet de Dieu, c'est justement cette plénitude, cette perfection totale, cette suffisance, au beau sens du terme, en Dieu. Dans un prochain temps de prière, peut-être pouvons-nous demander au Seigneur de nous dire ce qu'est cette plénitude qu'il est. Comment il est parfait? Non pas comment il fait pour être parfait, mais de quelle manière il est parfait et de quelle manière, si on veut aller un cran plus loin, il vit sa propre perfection. Et d'une façon très mystérieuse et très belle, il y aura là une source de repos pour notre cœur.
Chers auditeurs, c'était notre émission Dieu tellement vivant. Vous étiez avec le Père Nicolas Sautreau. Retrouvez cette émission en podcast sur notre site internet radiomaria.fr.